Merci beaucoup, mon colonel. Vous avez maintenant la parole. La procédure que vous connaissez très bien reste la même. Déclinez-vous, déclinez votre identité et ainsi que celle de l'organe que vous représentez. Vous avez la parole à présent. À ma droite, personne. Ici, à gauche.
Merci. Merci. C'est Venant Voudissa pour la Radio-Télévision nationale congolaise. Ma question s'adresse au lieutenant-colonel porte-parole. C'est juste pour obtenir des amples informations sur des déclarations du chef du M23. Eh bien, réagissant aux accusations sur le massacre à grande échelle dans la partie est du pays et de l'appui logistique dont bénéficierait le M23 de la part du gouvernement rwandais, ben, le chef rebelle du M23 a affirmé avoir récupéré des armes et non pas avoir bénéficié d'un quelconque appui de qui que ce soit. Maintenant, la question que je me pose, qui aurait abandonné ces armes qu'ils auraient récupérées sur Bounagana? Et vous ne restez pas sans savoir que Bounagana, c'est la charnière entre la RD Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Donc, vous avez la parole pour nous fournir des amples informations sur ceux qui avaient abandonné ces armes que le M23 s'orgueillit aujourd'hui. Merci.
Je vous remercie pour votre question. Toutefois, je suis au regret de vous dire que votre question reste posée, parce que je ne suis pas porte-parole du M23, premièrement. Et deuxièmement, c'est une déclaration, tout simplement, d'une partie au conflit, qui est le M23. Ça peut aussi être tout simplement déclaré dans le cadre d'une propagande bien précise. Mais pour tout vous dire, je ne saurais répondre à cette question pour dire d'où viennent les armes qu'utilisent les éléments du M23.
Merci, mon colonel. Messieurs, s'il vous plaît.
Merci. Christian Bella de Sangomalang Télévision. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Monsieur le porte-parole, la population de la localité de Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, continue d'être endeuillée par le M23. Les derniers cas, en date est celui de l'assassinat d'un chef de cette localité qui a été fusillé à bout portant pendant qu'il surveillait. Il faisait le tour de surveillance de sa population. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les mesures idoines de la MONUSCO pour la sécurité dans cette partie du pays.
C'est juste pour vous dire que les mesures idoines, la MONUSCO continue à les prendre de tout temps. Ça veut dire que dans les localités où nous sommes déployés, et là, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas à Rumangabo. Et effectivement, ce chef a été initialement kidnappé par les éléments du M23 et a été relâché. Et quelques jours après, a été abattu froidement devant sa maison, ce que nous regrettons. Par ailleurs, pas simplement parce que c'est un chef, parce que tout décès survenu dans le territoire congolais nous préoccupe. Et à ce titre, nous avons toujours communier avec les populations qui subissent de manière quotidienne les affres de cette guerre initiée par le M23. Les mesures, nous continuons à les prendre pour protéger les populations civiles. D'abord des mesures préventives, comme vous le savez, mais aussi nous avons des déploiements robustes lorsque l'action qui est engagée contre les populations civiles est en train de se dérouler. Nous nous déployons pour venir arrêter ces activités. Et troisièmement, ce que nous faisons, c'est que même si les mutins ou en tout cas les forces négatives ont déjà perpétré cet acte-là, dès que nous nous déployons, nous sécurisons cet endroit et nous apportons les premiers soins pour essayer d'alléger les souffrances des populations qui ont été victimes. Nous continuons dans notre foulée et nous ne désarmons pas pour essayer de protéger les populations civiles, tout en sachant que nous ne pouvons pas être partout et en même temps pour remplir cette mission-là.
Merci, mon colonel. Au fond, s'il vous plaît. Approchez-vous d'un micro pour qu'on vous entende aussi. Nous sommes en direct, vous savez.
Oui, Bruno Minas, RFI. Est-ce que la MONUSCO partage le constat fait par Human Rights Watch de violations massives des droits de l'homme par le M23, notamment d'exécutions sommaires de déserteurs? Est-ce que la MONUSCO partage les mêmes constats?
Oui, la MONUSCO partagent de manière générale le même constat. C'est vrai que les chiffres qu'avance Human Rights Watch ne sont pas exactement les mêmes que nous avons. Nous avons quelques différences près dans ces chiffres. Mais cependant, nos constats sont exactement les mêmes. Et d'ailleurs, nous avons rendu compte tout le long de ces exactions commises par les uns et les autres à travers des communiqués de presse. Nous en avons émis plusieurs. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme également. Donc oui, nous sommes tout à fait en accord avec ce que Human Rights Watch dit, en dehors de cette petite différence dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre question, monsieur.
Monsieur Okito Papi, du journal Écho d'Opinion. Et ma question s'adresse à la représentante du PAM. Vous avez parlé de la distribution de bons d'achat des $13. Est-ce que ça s'est fait comment? C'est tous les jours que vous donnez $13 ou ça s'est fait mensuellement ou hebdomadairement? Et si c'est les $13, trouvez-vous que c'est suffisant pour des familles qui sont au-delà des 5 personnes? Merci.
En fait, pour calculer le montant de ce bon d'achat, on se base sur l'équivalent de ce qu'on aurait donné en ration. C'est-à-dire, on étudie les marchés autour du site, et au lieu de donner de la farine qui arrive des États-Unis ou d'Afrique du Sud ou de Zambie, on dit aux gens, voilà, si on vous avait donné, avec le même argent, vous auriez eu la même quantité, mais au lieu de l'avoir importé, vous l'avez sur vos marchés. Donc en fait, la quantité est exactement la même que ce que les gens reçoivent d'habitude en vivres. Et on calcule ça pour que ce soit des rations qui soient suffisamment nourrissantes pour toute la famille pendant, là, en l'occurrence pour les $13, c'est 15 jours.
Madame, tout à fait au fond, s'il vous plaît.
Patricia Panzou pour BioN Télévision. Alors, ma première question est celle de savoir comment ou de quelle manière les Nations Unies comptent appuyer la RDC par rapport à la situation d'occupation de Rutshuru par le M23. Et ma deuxième question est celle de savoir, est-il possible que les chefs des M23 soient invités au sommet de New York, comme l'a évoqué certains journaux de la place?
La question s'adresse à qui exactement? C'est important de le dire.
Au porte-parole militaire.
D'accord.
Les deux.
Bon,
donc concernant l'occupation du territoire de Rutshuru par le M23, ce que nous avons constaté depuis quelque temps, mais vous savez aussi que présentement, ce sont plutôt des voies politiques et diplomatiques qui sont privilégiées pour essayer de trouver une issue heureuse à cette crise qui endeuille l'est de la RDC depuis un bon moment. Particulièrement le territoire de Rutshuru. Toujours est-il que nous nous inscrivons dans une dynamique qui est claire. Ça veut dire que nous sommes là pour soutenir le gouvernement congolais, particulièrement les FRDC pour ce qui concerne la force, et toute initiative qui pourrait être prise par les FRDC trouvera le soutien indéfectible de la force de la MONUSCO pour que la paix puisse revenir dans cette partie du pays.
Merci. Monsieur, à ma droite.
Merci, Sissé Mpoyi, Horizon 33. Je voudrais d'abord, j'ai deux questions. S'il y a quelqu'un de l'OMS dans la salle qui puisse nous faire un résumé sur l'évolution de l'épidémie de l'Ebola en province orientale. La deuxième question, c'est que et la population et le gouvernement congolais n'arrêtent pas de demander la requalification du mandat de la MONUSCO. C'est en quelque sorte une façon de dire que, vu la situation actuelle, le mandat de la MONUSCO devient un tout petit peu incompatible. Est-ce qu'au niveau de la MONUSCO, y a-t-il des démarches qui sont déjà en cours pour obtenir la requalification du dit mandat au niveau du Conseil de sécurité?
Oui, je prends cette deuxième question tout de suite. Tout en mentionnant que s'il y a quelqu'un donc de l'OMS dans la salle, que la personne veuille bien rencontrer notre ami qui vient de poser la question. Donc, pour répondre à votre deuxième question, le mandat de la MONUSCO n'est plus en adéquation avec les réalités actuelles. Je ne dirais pas cela. C'est vrai que la demande a été faite, vous l'avez tous appris. Mais pour l'instant, la question reste tout simplement à ce niveau de requête, si vous voulez. Parce que la décision, in fine, la décision à la fin, finalement, revient au Conseil de sécurité. Et cela va prendre du temps. Okay? On vient juste de proroger notre mandat, donc de parler, de demander que ce mandat qui vient d'être prorogé soit soumis à des amendements. Ma foi, ce n'est pas quelque chose qui se fait aussi facilement. Mais je suis sûr que les conseils de sécurité ayant été saisis de cette affaire, de cette requête, ils sont en train, à leur niveau, d'y réfléchir. Mais je ne peux pas vous en dire plus.
Concernant les informations relatives aux données pour Ebola, je tiens à apporter à votre attention qu'une conférence de presse va être organisée aujourd'hui par le ministère de la Santé. Donc je vous propose de vous rapprocher du ministère de la Santé qui pourra vous donner les dernières informations pertinentes à ce sujet. On a l'heure de la conférence de presse. Donc vous vous rapprochez du ministère de la Santé, mais là vous aurez vraiment les dernières informations. C'est la raison pour laquelle nous on a des données qui datent de quelques jours et on préfère vous renvoyer vers le ministère de la Santé. Merci.
De ce côté, du côté droit, monsieur.
Honoré Mbenga, je suis journaliste de l'agence presse associée APA. Ma question s'adresse à monsieur le porte-parole. Vous avez dit tout à l'heure que la MONUSCO continue à accorder son assistance à la commission électorale indépendante, CEMI. Mais en examinant aussi la résolution 2053 du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité attire l'attention de la MONUSCO sur les erreurs intervenues aux élections de novembre 2011. Je voudrais avoir un éclairage, monsieur le porte-parole. En organisant les élections de gouverneurs de province actuellement, est-ce que vous ne voyez pas que c'est incompatible avec la Constitution?
Merci.
Pourquoi? Parce que les députés provinciaux actuels, leur mandat a expiré. Est-ce que les députés que nous allons élire en 2013 seront-ils responsables devant ces gouverneurs? Par ailleurs, l'OPNID dernièrement a mis au point une étude qui privilégie la décentralisation en disant que la population fait confiance aux dirigeants qu'il a choisi lui-même directement. Est-ce que vous ne voyez pas ici qu'il y a une... Enfin, je ne sais pas.
Merci.
Une insuffisance. Excusez-moi d'avoir posé cette question, mais...
Vous avez été bien compris. Votre question touche à plusieurs aspects en même temps. Et d'ailleurs, elle sort du cadre simple de la MONUSCO. J'allais même vous renvoyer à la CENI. Lorsque vous avez parlé d'erreurs commises en novembre 2011, et si le Conseil de sécurité en a été saisi, ma foi, ce n'est pas le rôle du Conseil de sécurité. Hein. Par contre, je vous dirais que, pour revenir à la MONUSCO, vous savez que nous avons fait des rapports d'évaluation après ces élections-là, la CENI également d'ailleurs, et donc nous en avons tiré toutes les conclusions, toutes les leçons. D'accord ? Et nous avons, nous au niveau de la MONUSCO, je suis sûr qu'il en est de même au niveau de la CENI, mais c'est à eux de le dire. Évidemment, ayant donc tiré des leçons du passé, nous allons essayer d'améliorer les élections futures, les élections au niveau des provinces, des localités, donc dans ces provinces-là. C'est tout cela que je peux vous dire pour l'instant. Merci.
J'ai une précision à apporter concernant le concept de décentralisation et de développement local, qui est une activité qui est menée, entre autres acteurs, par le programme du PNUD. Par le PNUD. On parle de développement local, et donc ce n'est pas nécessairement lié au processus électoral. Ce qu'on entend par par développement local, c'est la prise en charge par la communauté des besoins en matière de services sociaux. C'est-à-dire que la communauté elle-même identifie ses besoins et ensuite établit des plans et fait des demandes, des recherches de subventions. C'est le cas actuellement dans l'Équateur et aussi à Beni, dans le Nord Kivu. Et effectivement, cette approche où les communautés identifient elles-mêmes leurs besoins et établissent leur plan de développement local ont des résultats. Mais je pense que ce serait une erreur de vouloir lier ça avec le processus électoral. Je vous remercie.
Merci Florence. Ah oui, monsieur contre le mur, derrière.
Merci beaucoup pour la parole. Saphorien Katumba, journal Le Peuple. Une préoccupation pour madame Florence. L'alphabétisation reste un grand fléau dans le pays touché par les guerres. Vu la gravité du cas de la RDC, est-ce que la MONUSCO situe sa mission dans l'alphabétisation sous un projet à long terme ou à court terme? Je vous remercie.
Alors c'est Joseph Potopoto de l'UNESCO et non de la MONUSCO, qui est derrière moi, qui va essayer de vous apporter quelques éléments de réponse.
Bien, merci beaucoup. Je crois que le programme d'alphabétisation ou le problème de l'alphabétisation fait partie intégrante du programme de l'UNESCO. Présentement, nous avons un programme d'alphabétisation au niveau de l'armée, donc avec les militaires. Il y a aussi un projet d'alphabétisation électorale. Qui est déjà presque fini au niveau de préparatif. Et je crois que le financement qu'on attend pourra intervenir d'ici la fin de l'année, on pourra commencer à alphabétiser. Mais il faut savoir qu'il y a plus ou moins 30% de la population congolaise qui est analphabète. Donc les efforts ne doivent pas venir forcément des Nations Unies. Je crois que le gouvernement aussi a une part des responsabilités pour élaguer ce problème. Merci.
Merci Joseph. Je prends une dernière question à ma droite et ensuite je vais à gauche. Monsieur, soyez bref s'il vous plaît.
Merci, c'est Dido du journal La Prospérité. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Je voudrais savoir, vous avez parlé de la province orientale où vous avez mis des dispositions pour que la LRA puisse procéder à une reddition volontaire. Est-ce que jusque-là vous avez enregistré des cas de reddition volontaire? Si oui, comment vous procédez? Est-ce que vous les rapatriez en Ouganda une fois qu'ils se sont rendus? Merci.
Merci. Concernant justement l'opération Bienvenue à la paix qui a été lancée depuis quelques mois, en vue justement d'inciter les éléments de la LRA à rejoindre le programme de D3R de la MONUSCO, il faut humblement avouer que les résultats ne sont pas si encourageants concernant justement cette opération Bienvenue à la paix qui est particulièrement menée par le DD3R. Toutefois, nous avions deux options. La première, c'était justement inciter les éléments de la LRA, mais aussi la deuxième option, c'était les contraindre à aller justement vers ces programmes DD3R en menant justement l'opération Chumangumi, dont on a parlé aussi, pour essayer de leur dénier toute liberté d'action dans la zone où nous les repérons et ainsi les contraindre à se rendre auprès de la section DD3R. Nous continuons à mener nos actions avec conviction et détermination pour essayer d'éradiquer la LRA de la province orientale. Mais vous conviendrez aussi avec moi qu'il y a une baisse significative des activités de la LRA depuis bientôt quelques semaines dans cette province particulièrement. Et aussi de l'autre côté, la semaine dernière, un camp a été attaqué, un camp de la LRA a été attaqué par des troupes ougandaises en République centrafricaine. Donc toujours est-il que la traque contre la LRA se poursuit et la MONUSCO y est associée à l'intérieur du territoire congolais avec les forces gouvernementales congolaises pour essayer de mettre un terme justement aux nuisances provoquées par la LRA en RDC.
Oui, madame, en face de moi, au fond de la salle.
Oui, bonjour, c'est Lorinda Anna, Iriba FM, Bukavu. Je représente l'Est. La presse parue en début de la semaine nous montre qu'il y a une force nette qu'on veut envoyer sur Bukavu, qui est composée de l'Ouganda, Tanzanie, Kenya, Angola et Burundi. En attendant, il y a la MONUSCO sur place. Vous ne pensez pas, pendant, parmi tous ces pays-là, il y a des pays qu'on accuse d'être des agresseurs du Congo. Vous ne pensez pas qu'avec la MONUSCO sur place et la force maître qu'on est entrée et qu'on veut envoyer à Bukavu, que ça pose un problème sur place? Ma question est posée au colonel, le porte-parole de la MONUSCO.
Mais je peux me permettre de toucher un mot donc à cela aussi. Parce que vous parlez là de la force internationale neutre, il s'agit de cela. Cette idée qui a été émise récemment est au niveau, si vous voulez, de concept pour l'instant. C'est-à-dire que c'est une idée qui est en train d'évoluer, de se développer. D'ailleurs, il va y avoir une réunion très bientôt à New York, le 27 de ce mois. Et les pays conviés à cette réunion, évidemment, vont continuer de plancher sur cette idée de force internationale neutre. Donc nous en sommes pour l'instant à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il est déjà compris dans l'entendement des personnes, des pays impliqués, que les pays voisins directs, dans le voisinage direct de la RDC, ne feront pas partie de cette force-là. Si cette force veut être effectivement neutre, vous comprendrez pourquoi. N'est-ce pas ? Mon colonel, vous avez quelque chose à ajouter à cela ?
Je crois que vous avez tout dit. Peut-être juste repréciser qu'effectivement, la force internationale neutre est actuellement engagée dans un processus de gestation. Mais tout de suite, les mesures urgentes qui ont été prises, c'est la mise sur pied d'un mécanisme conjoint de vérification. Le Burundi et tout ça font partie, ainsi que la RDC, et les gens sont en train de plancher à Goma pour essayer de rendre ce mécanisme opérationnel très bientôt. La force, c'est une projection dans peu de temps.
Merci. En face, je reviens à vous tout à l'heure.
Oui, merci, c'est Monsieur Amis Bakwa Ricardo pour le compte du journal Écho du Paysan. Ma question, c'est, je l'adresse au porte-parole militaire. Monsieur le porte-parole militaire, la semaine écoulée, le ministre de la Défense rwandais a intervenu sur la plainte qui plane sur le général dissident Bosco Ntaganda. Il a dit ceci, je reprends, que la communauté internationale, la CPI, qui est une justice internationale, alors, a une armée en République démocratique du Congo. Cette armée est suréquipée. Et là, il faisait allusion à la MONUSCO. Il dit que la MONUSCO est suréquipée et que la MONUSCO avait la possibilité d'arrêter rapidement le général dissident Bosco Ntaganda. Alors, son mouvement militaire est en train de terroriser le paysan congolais. Avez-vous, oui ou non, la possibilité d'arrêter ces derniers et les transférer à la CPI, parce que donc le gouvernement
congolais
a la possibilité.
Merci, colonel.
Bon, d'abord, je pense qu'il faudra préciser que je ne suis pas de la CPI, mais il faut préciser que la CPI n'a pas d'armée. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, que la force de la MONUSCO n'a pas reçu mandat d'arrêter M. Bosco Ntaganda, parce que je pense qu'il vous a été longuement expliquer ici que la CPI, quand la CPI émettait un mandat d'arrêt, et s'adressait plutôt aux États concernés, qui ont qui ont toute la latitude d'arrêter et de transférer M. Bosco Ntaganda. Donc la MONUSCO, sa force particulièrement, n'a pas reçu mandat d'arrêter M. Bosco Ntaganda, et la CPI, à ma connaissance, n'a pas d'armée.
À ma gauche, monsieur avec le képi, assis.
Roger Marley Lukunga, CMCTV. La presse parue en début de la semaine signale la désolation de la société civile du Kivu, qui pointe du doigt la CIRGL et la MONUSCO d'avaliser lentement mais sûrement la balkanisation de la République démocratique du Congo. Une réaction de votre part?
Eh bien, la MONUSCO, ma foi, ne peut pas être liée ni de près ni de loin à une quelconque idée de balkanisation. Ce serait contraire aux valeurs des Nations Unies. La MONUSCO a un mandat à exécuter dans ce pays, et vous êtes tous au courant de ce mandat parce qu'on l'a répété plusieurs fois. Donc, que de tenir des propos de ce genre, à mon avis, ce n'est pas de bonne foi de ces personnes-là. Nous sommes ici pour aider ce pays à aller de l'avant. Nous sommes ici pour essayer de stabiliser ce pays qui est en instabilité, surtout à l'Est. Et nous nous employons à cela avec tous les moyens que nous avons et nous faisons des sacrifices tout le long. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais s'il vous plaît, lorsque vous prenez connaissance de telles informations, essayez de faire la part des choses. D'accord ? Merci. Juste derrière.
Merci beaucoup, c'est Mesdames Bolila pour le compte de la radio-télévision ACK. Ma préoccupation serait peut-être par rapport à la position des Nations Unies en rapport avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça ferait aujourd'hui une décennie et demie. Nous avons suivi la fois passée la position du secrétaire général adjoint des Nations Unies et qui jette beaucoup plus son regard sur l'avenir. Et je ne sais pas si c'est une position de passer l'éponge sur les 6 millions de Congolais qui ont payé de leur sang à l'est de la République démocratique du Congo, parce que l'opinion, tant nationale qu'internationale, attendait et attendra toujours que les responsables de ce massacre à l'est de la République démocratique du Congo soient un jour jugés et punis. Mais par rapport à la position du secrétaire général, c'est comme si nous voulons faire un mea culpa et gracier tous ces meurtriers de la République démocratique du Congo.
Ce n'est pas du tout cela que le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a dit, lors de son récent passage ici, à Kinshasa ou en RDC. Il a bien dit qu'il fallait qu'on aille de l'avant, effectivement, par rapport aux accusations qui ont été faites contre le Rwanda, contre sa participation à cette réunion qui s'est tenue à Kampala le samedi passé, contre d'autres accusations encore. Il a parlé de cela et il a dit qu'il faut plutôt faire du consensus, aller de l'avant et avancer donc. Mais maintenant, j'aimerais revenir tout de même sur ce que vous avez dit. C'est vrai, les Nations Unies sont ici depuis plus de 10 ans maintenant, de manière cyclique. Mais beaucoup a été fait pendant tout ce temps-là. Vous conviendrez avec moi que si les Nations Unies, pour être beaucoup plus concret, si la MONUSCO n'était pas là, la situation serait beaucoup plus grave que celle que nous connaissons maintenant. Je continue, s'il vous plaît. Et par rapport à des personnes qui auraient commis de graves crimes, et donc selon ce que vous venez de dire, les Nations Unies veulent passer l'éponge là-dessus, ce n'est pas correct de le dire. Vous savez très bien qu'il y a des Congolais en ce moment qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Il y en a même à la Cour pénale internationale qui sont poursuivis, qui vont être jugés par rapport à ces crimes qu'ils ont commis. Comment est-ce que vous pouvez donc avancer de tels propos? Monsieur, s'il vous plaît.
Monsieur Alain Waikani, RTNC, je m'adresse au colonel Félix Vance. En Ituri, vous avez identifié Cobra Matata en Irumu comme le SMR du trouble, mais maintenant, en Djougou, il y a le recrutement des anciens combattants, c'est-à-dire des anciens démobilisés qui ont servi au sein de l'armée de Thomas Lubanga. Mais est-ce que vous avez essayé d'identifier, parce que vous avez l'équipe de sensibilisation sur terrain, mais également des patrouilleurs, c'est-à-dire les militaires de la MONUSCO, vous avez fait un effort de comprendre qui est en train de recruter exactement pour le moment en Djougou et pour faire quoi? Merci.
Oui. D'ailleurs, dans ma présentation, j'ai même clairement identifié qui est en train de recruter. Il s'agit du mouvement de résistance populaire du Congo, qui est un nouveau groupe armé qui a fait son apparition depuis peu dans le territoire de Djougou, qui est effectivement composé d'ex-FRDC déserteurs, des éléments de l'UPC et qui sont en train de recruter parce que tout simplement leur agenda, l'agenda, en tout cas les revendications qui sont mises sur la table ont trait à la bonne gouvernance, ont trait un peu aux promesses électorales qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues, donc en fait qui interpellent un peu le gouvernement congolais sur ce qu'ils estiment être des revendications justes. Donc c'est bien le mouvement de résistance patriotique du Congo qui est à la base de ces recrutements dans les territoires de Djougou.
Voilà, merci beaucoup mon colonel. Je pense que nous avons épuisé le temps qui nous avait été donné. Nous sommes au micro, nous pouvons continuer cette discussion au micro si vous voulez bien. Bonne journée.